Bonjour à tous et bienvenue sur Calade, au sommaire de notre journal local et régional. Froid, il y a urgence d'agir en faveur des sans-abri. Un groupement d'associations interpellait les autorités de l'urgence d'agir en faveur de nombreuses personnes. Pour nous en parler, Rita, membre du groupement Villefranche-Beaujolais. De quoi l'affaire Hanouna est-elle le signe ? Conférence le fait du mois de décembre animée par François Boursier, historien. Une discussion avec celui-ci sur la question. Et en conclusion, le sapin de Noël, une tradition au service de l'économie locale. Et tout particulièrement, la filière bois. Nous sommes accompagnés de Dominique Desprats, agriculteur et également maire de Clavaisole. Calade, le journal. Froid. Il faut mobiliser toutes les forces vives de la nation pour mettre les personnes à l'abri. Appelle la Fondation Abbé Pierre, par la voix de Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre, sur France Info. De nombreuses personnes qui vivent dans la rue sont sans solution cet hiver. Le 115, numéro d'urgence, est débordé et manque de places d'hébergement. Le délégué général de la Fondation Abbé Pierre, donc Christophe Robert, en appelait à la responsabilité de l'État sur France Info. Il y a une quinzaine d'années, on parlait de 26 000 personnes sans abri. On pense que ce chiffre a augmenté, selon une enquête à venir de l'INSEE. Plus globalement, on a aujourd'hui 300 000 personnes sans domicile fixe dans le pays. Cela comprend une partie des sans-abri et une partie des personnes qui sont dans des hébergements d'urgence, qui vont être dans des solutions temporaires. Ce chiffre de 300 000 personnes sans domicile fixe a doublé depuis 2012, date de la dernière enquête de l'INSEE sur le sujet. Vous avez déjà 9 millions de pauvres dans ce pays. Les plus pauvres parmi les pauvres se sont enfoncés dans cette période difficile. La période d'inflation avec plus de 12% en moyenne des prix alimentaires. On nous annonce encore 15% d'augmentation de gaz et d'électricité. Cela veut dire que pour ces personnes-là, c'est encore plus de difficultés. Mais il y a aussi toutes celles qui étaient sur le fil, qui s'en sortaient à peu près. Est-ce qu'elles ont basculé ? Est-ce qu'elles vont basculer ? Il faut avoir une attention très attentive à ces personnes pour ne pas qu'elles viennent gonfler les rangs de ceux qui demandent des aides alimentaires, qui pourraient perdre leur logement et à terme se retrouver également à la rue. C'est difficile, nous dit-il, une fois qu'on a basculé, de remonter la pente. Donc, il faut vraiment les aider au moment où la fragilité se présente. Froid. Il y a urgence d'agir en faveur des sans-abri. Un groupement d'associations interpellait alors, en novembre dernier, les autorités de l'urgence d'agir en faveur de nombreuses personnes qui ne disposent d'aucun hébergement, dont des enfants. Nous avions rencontré alors Rita, membre du groupement Villefranche-Beaujolais.
Alors c'est vrai que c'est une situation qui est dramatique et récurrente et qui devient de plus en plus inquiétante parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes dans la rue et sur Villefranche, de plus en plus de femmes et de femmes avec enfants.
Donc plusieurs associations se sont mis en collectif en quelque sorte hein, et donc en appel pour alerter hein, sur cette situation, présente aujourd'hui en Beaujolais. Hein.
Oui, tout à fait. On est plusieurs associations et on est aussi plusieurs citoyens à vouloir se mobiliser pour essayer de trouver des solutions pour ces personnes qui n'ont pas eu la chance de trouver une place en foyer et d'être hébergées.
Alors justement, quelles sont les capacités d'accueil sur le territoire ?
Alors le nombre de places, je ne le connais pas exactement. Je sais aujourd'hui qu'il y a encore des personnes qui sont restées sur la touche, qui n'ont pas été orientées dans des foyers et qu'il y a aujourd'hui sur Villefranche-sur-Saône des femmes avec enfants dans la rue.
Les structures sur lesquelles on peut faire appel, quelles sont-elles ?
Alors, il y a nous, l'Oasis, il y a aussi le foyer Notre-Dame des Sans-Abri. Il faut que les personnes appellent le 115 et du coup, elles seront orientées par la maison de la veille sociale sur différentes places, tant qu'il y a des places. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, on se rend bien compte qu'il y a de moins en moins de places. Voilà. Alors, il y a un circuit. Nous, l'Oasis, on a la chance de pouvoir faire de l'accueil inconditionnel. On a des places qui sont effectivement réservées à la maison de la veille sociale, mais on a aussi nos places et on essaye d'accueillir le maximum de personnes. Aujourd'hui, on est en surcapacité. Toutes nos chambres sont occupées, toutes les places passagers des personnes orientées par la maison de la veille sociale sont occupées. Et du coup, on met aussi, malheureusement, on accueille aussi des personnes dans les couloirs pour ne pas, justement, qu'elles puissent dormir dehors. Aujourd'hui, plus de place. On a malheureusement que des personnes qui sont hébergées dans le couloir. Voilà, on essaye aussi de faire attention parce qu'on est obligé de pouvoir accueillir dignement. Malheureusement, aujourd'hui, nous ne pouvons pas accueillir de femmes. Et moi, c'est la situation qui m'inquiète le plus. Ces femmes avec enfants qui sont dehors aujourd'hui sur Villefranche.
Et on sait les difficultés, effectivement, lorsque l'on est une femme.
C'est ça, parce qu'aujourd'hui, on le sait bien, de toute façon, une femme dans la rue, elle est bien plus fragile, elle est bien plus victime de violences et d'agressions qu'un homme. Il y a bien plus de risques et souvent, malheureusement, elle se cache pour justement ne pas subir ce genre de pression. Elle se cache, elle vit dans des caves, elle vit dans des squats et il est difficile de les repérer. Grâce à la maraude, on a pu les repérer et certaines ont pu trouver une solution, mais pas toutes.
Voilà, on y vient effectivement, il y a une autre structure.
La maraude, c'est la sauvegarde de l'enfance. D'accord. C'est une antenne de la sauvegarde de l'enfance et eux, ils orientent, eux font les maraudes et orientent les personnes les plus fragiles dans des foyers. Ils ne font pas que repérer, hein. Ils apportent aussi à manger, des couvertures, enfin, ils essayent de répondre aux besoins les plus essentiels, mais malheureusement, une personne dans la rue, ça reste une personne dans la rue, ça reste une proie, si je peux me permettre. Mais je pense qu'en tant que citoyen, il faut aussi alerter l'État et qu'il n'y ait plus aujourd'hui, en 2022, de gens et d'enfants qui soient dehors. C'est quelque chose qui est plus entendable à notre époque.
Rita, membre du groupement Villefranche-Beaujolais, en faveur des sans-abris. De quoi l'affaire Hanouna est-elle le signe ? Question posée lors du fait du mois de décembre par l'historien François Boursier, animateur du cycle de conférences à l'initiative de l'éducation populaire à Villefranche-sur-Saône. On l'écoute tout de suite.
Dès le départ, c'est vrai que je me suis interrogé en me disant « est-ce que vraiment il faut parler d'une telle émission ?» Et puis je me suis rendu compte que tous les journaux, Libération, Le Figaro, Le Monde, mais les magazines aussi, Le Nouvel Observateur, L'Express, Le Point, avaient fait des dossiers pour faire le point sur le personnage, à l'occasion donc de cet esclandre qu'il y a eu sur le plateau de l'émission le 10 novembre de cette année, où M. Hanouna a purement et simplement insulté, traité d'abruti et de merde, un député de la France insoumise, au prétexte qu'il avait parlé de Vincent Bolloré. C'est-à-dire qu'au moment où il a cité le nom de Vincent Bolloré, il a subi une pluie d'insultes, d'invectives et de dénonciations, alors qu'en même temps, M. Louis Boyard, le député de la France insoumise, était un ancien chroniqueur de « Touche pas à mon poste ». Et quand il est arrivé sur le plateau, Cyril Hanouna lui a dit « Bonjour frérot ». Donc, comme si il pensait qu'il y avait une proximité. Et nouant cette proximité, il pensait que le député s'en tiendrait à débattre de choses dont on peut débattre sur le plateau de M. Hanouna. Et on sait maintenant qu'il y a des choses dont on ne peut pas débattre. Ce n'est pas un lieu où il y a de la liberté d'expression, d'une certaine manière.
Alors, le phénomène Hanouna, en quelque sorte, a déclenché un regard peut-être plus sérieux, on va dire, en tous les cas, sur les appartenances, en quelque sorte, et les propriétaires de chaînes médias. Hein.
Voilà, donc c'est à partir du moment où on a focalisé sur Cyril Hanouna, mais il y avait déjà eu pas mal d'enquêtes le concernant, parce que on a peut-être oublié, mais dans le courant du mois de décembre-janvier de l'année 2021, début janvier même 2021, alors que Éric Zemmour ne s'est pas encore déclaré, le bruit circule, la rumeur circule comme quoi Cyril Hanouna pensait se présenter à l'élection présidentielle. Et dans ce contexte-là, il avait écrit un livre avec Christophe Barbier, un journaliste connu et reconnu, dont le titre était « Ce que les Français m'ont dit ». Donc il se préparait quelque chose, puis finalement, ça n'a pas eu lieu. Depuis quelque temps déjà, un certain nombre de spécialistes, chercheurs CNRS, avaient fait des travaux pour enquêter sur le personnage. Donc il y avait des questions sur le contenu et la méthode, le style de son émission. Puis il y avait toute une série de questions sur Cyril Hanouna, c'est la chaîne de télévision C8. C8, c'est le groupe Canal+, c'est le groupe Canal+, c'est Vincent Bolloré. Et donc, on se mettait à s'interroger sur le poids que pouvaient avoir certains chefs d'entreprise richissime qui investissait dans la presse écrite.
Le prochain rendez-vous du cycle de conférences du Fait du Mois aura lieu le jeudi 19 janvier à l'accueil Cantalade à Villefranche-sur-Saône à 18h30. Et à l'écoute, un prochain magazine sur l'intégralité de la discussion avec l'historien François Boursier lors de sa conférence sur le thème « De quoi l'affaire Hanouna est-elle le signe ?» Et en conclusion à cette édition, le sapin de Noël, une tradition au service de l'économie locale, et tout particulièrement la filière bois, une réelle économie, un enjeu pour demain et un avenir pour nos jeunes, tels sont les propos recueillis de Dominique Desprats, agriculteur et également maire de Clavisol.
On dit toujours travailler le local, on voit qu'il y a quand même un grand nombre de villes en France finalement qui achètent leurs sapins à des centaines de kilomètres. Bah là, ce matin j'ai trait mes vaches et après on a descendu le sapin, donc je crois qu'on ne peut pas faire plus local. Voilà.
C'est des sapins qui sont d'une production.
Justement, ce n'est pas des sapins non plus, des spéciales sapins de Noël, donc justement on peut se dire que peut-être qu'il y a plus joli en sapin, on ne dit pas qu'on a le plus joli sapin. C'est des sapins qui auraient pu être destinés à faire du bois dans 30 ou 40 ans. On les prend au milieu de forêts, que c'est pas des forêts dédiées aux sapins de Noël. Mais je trouve que c'est ça aussi, finalement, ces sapins-là, autrement, partent en éclaircissement. Donc finalement, pour aussi prendre un peu en contre-pied des voies, des polémiques un peu écologiques, du coup, on nuit pas à la nature, puisque c'est juste des sapins qui étaient en surpeuplement dans les forêts où on les a pris, et donc c'est de l'éclaircissement, donc voilà, ça a globalement en plus un sens environnemental, à l'inverse que certains veulent nous faire croire.
Alors à Clavisol, il y a donc des forêts dans le Beaujolais vert, hein, on le sait, là il vient d'une production privée ou c'est
alors pour le coup la commune a quelques forêts, mais on n'en a pas trouvé qui était aussi jolie, donc c'est dans une de mes forêts à moi, pour le coup, voilà.
C'est quelle espèce plus particulièrement d'épicéa ?
Du sapin et il y en a un, c'est un Douglas aussi. Voilà, on a voulu amener deux variétés différentes, voilà, puisqu'on est aussi la capitale du Douglas à Clavisol.
Que l'on trouve à Clavisol.
Oui.
Là, ce sont des espèces naturelles, d'accord.
Oui.
Voilà. Et donc, est-ce qu'il y a encore des promeneurs dans le Beaujolais vert où on voit les personnes qui viennent chercher leurs petits sapins ou...
Alors, pour le coup, on en a vraiment de moins en moins parce que les gens font la chose la plus facile, donc ils achètent leurs sapins. Et puis aussi, on a beaucoup de forêts privées, donc les gens sont aussi quand même méfiant d'aller chercher leurs sapins dans des forêts privées. Ça se fait un petit peu, mais pas beaucoup. Par exemple, si votre question c'est est-ce qu'il y a des citoyens de Villefranche qui viennent chercher, je dirais que non. C'est plutôt les habitants locaux qui coupent leurs sapins. Mais c'est très peu.
Un petit mot peut-être sur la forêt. Il y a une exploitation sur la commune. Comment ça se passe ?
Voilà, moi je trouve que là aussi, il peut y avoir des interrogations. On voit certaines émissions dernièrement sur la forêt. Moi je pense que le jour où la forêt ne sera pas une économie, il n'y aura plus de forêt. Je crois qu'on a la chance aussi qu'on a une forêt aujourd'hui dans les territoires là, de Clavisol, une forêt productive. On a vu au travers de la fête du bois. Par contre, il faut communiquer sur l'économie de la forêt. Donc on a fait la fête du bois où on a accueilli aux environs de 5000 personnes. Il y a beaucoup de méconnaissances. Voilà, moi je vois, je suis agriculteur. Ben, il y a beaucoup de méconnaissances sur l'agriculture. Il y a beaucoup de méconnaissances. Et je trouve que c'est aussi un moyen de communiquer sur la forêt. Moi, je ne crois pas qu'il y a des gens qui vont à l'encontre des uns des autres. Il y a beaucoup de méconnaissances.
Et les métiers aussi de la forêt parce que...
Ça fait travailler énormément de monde. C'est une réelle économie. L'enjeu des prochaines années, c'est comment aussi éviter que finalement nos bois partent se valoriser soit dans pays étrangers, soit d'autres régions. Que les bois restent sur le territoire, c'est l'enjeu. Notamment, on a une super école de formation, la maison familiale à Lamure-sur-Azère, qui forme des gens dans toute la filière bois. Donc c'est comment faire que demain, on ait des acteurs qui soient dynamiques. Parce que ce qui fera la valeur de la filière bois demain, c'est les jeunes qui s'intéressent à la filière. Mais aujourd'hui, on a énormément de jeunes qui s'intéressent à la filière. Ce qui était presque moins vrai, ça redevient noble de faire charpentier, menuisier. Et pour moi, des gens de vraiment de la ruralité du territoire, c'est un pur bonheur.
Le bois, véritable enjeu d'avenir pour l'économie locale en Beaujolais, nous confiait Dominique Desprats à notre micro. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Quelade, notre page Facebook Très bonne continuation sur Calade.